Chapitre 10e. La bague au doigt. Je voudrais voir monsieur le directeur. Monsieur le directeur est occupé, mais si c'est pour un renseignement, on pourra vous donner tout aussi bien à la caisse ou au guichet des renseignements. Je n'en doute pas, mais c'est surtout monsieur le directeur que je voudrais voir. Il vous faudra attendre. Monsieur le directeur est en conférence, et je ne pourrai pas vous dire quand il aura fini, quand il sera libre et pourra vous recevoir. Très bien, j'attendrai. J'ai du temps devant moi, et j'aime mieux attendre ici que revenir, car je demeure assez loin. Voulez-vous me donner votre nom ? Sur une fiche que désignait le garçon de bureau, le visiteur écrivit « Monsieur Thomas, répétiteur ». Puis, tendant la fiche, il dit « Mon nom, évidemment, ne frappera pas, monsieur le directeur, mais je suis déjà venu il y a quelque temps et, certainement, quand il me reverra, bien que je sois un client modeste, j'espère qu'il se souviendra de moi. » Veuillez vous asseoir, monsieur, et attendre. » Monsieur Thomas s'assit dans un coin du bureau, mit son gros parapluie bleu entre ses jambes, le tint avec ses deux mains tout droit, et un large chapeau sur la tête, des lunettes bleues sur le nez, il se disposa à attendre qu'on voulût bien le recevoir. C'était dans l'antichambre de la banque de Krabs, au boulevard Saint-Michel. Quand le garçon de bureau lui présenta l'affiche, monsieur Thomas jeta les yeux sur la main qui tenait le bloc-notes. Non sans étonnement, il remarqua que ce garçon de bureau portait à la main gauche, au deuxième doigt, une bague en argent. C'était un détail sans grande importance, en vérité, que pouvait avoir cette fantaisie de porter à ce doigt un bijou. Cependant, elle ne devenait étonnante qu'en constatant que cette fantaisie assez rare, de luxe, si je puis dire ainsi, de snobisme, s'attachait à la main d'un simple garçon de bureau. Mais M. Thomas n'eut pas l'air d'en faire la remarque. Maintenant immobile, il regardait toujours les allées venues de gens qui passaient dans le bureau, se présentaient aux divers guichets. Il regardait aussi, sans paraître s'intéresser à cet examen autrement que pour occuper son temps, par désœuvrement, les employés qui, derrière les guichets, répondaient aux clients et faisaient le service de la banque. Un de ces employés, le caissier, vint à parler à un client, et M. Thomas répétiteur, bon provincial, remarqua que ce caissier portait au deuxième doigt de la main gauche également une bague, mais cette fois en or. Et chose curieuse, le client qui s'adressait à ce caissier portait également cet ornement au même doigt. M. Thomas, dans son coin, ne bougea tout de même pas et attendit encore, avec cette impatience, cette force d'inertie qu'ont les hommes paisibles, les braves gens, les candides, et aussi ceux qui n'ont ni maladie d'estomac, ni attaque de neurasthénie, ni élancement de rhumatisme dans les jambes. Il avait un peu l'air, ainsi, dans ce coin, d'une potiche burlesque. Le timbre finit enfin par retentir, et peu après le garçon de bureau dit à M. Thomas « Voulez-vous prendre la peine de me suivre ?»« Mais très volontiers. » M. Thomas se leva et suivit le garçon de bureau du pas tranquille et lourd que lui permettaient ses gros souliers, son ventre rebondi, son ample redingote et son parapluie bleu. Peu après, le garçon de bureau l'annonçait à M. de Krabs, le directeur de la banque. « M. Thomas !» Le répétiteur, en entrant dans ce bureau qui était en somme un salon très élégamment meublé, contenant quantité d'objets d'art du plus haut prix, esquissa près du pas de la porte quelques saluts qu'on passait, ainsi que certaines bonnes gens de province ont encore gardé précieusement l'habitude, le secret, comme le faisaient nos aïeux cérémonieux et dont nous sourions aujourd'hui. Le directeur, debout près de son immense bureau couvert de paperasse, de registres, de dossiers, de quasi-affiches, fit un pas au-devant du visiteur et, tendant les mains, « Ah, monsieur Thomas » s'écria-t-il, « que je suis heureux de vous revoir. Comment allez-vous ? À quoi dois-je la bonne fortune de pouvoir encore vous serrer la main ?» Monsieur Thomas répondit par quelques compliments aussi cérémonieux que ses salutations tout à l'heure, puis déclara, « J'ai été, lorsque la bonne fortune m'amena une première fois chez vous, extrêmement satisfait de votre obligeance pour la liquidation de cette affaire d'obligation que j'ai remise entre vos mains. Je viens aujourd'hui, une seconde fois, en client infime, c'est vrai, hélas, mais fidèle, comme vous voyez, vous prier de vouloir bien vous charger d'une nouvelle négociation pour moi. Mais, monsieur Thomas, je suis tout à votre disposition. » Le bon monsieur Thomas gardait dans ses mains les mains que lui avait tendues monsieur de Krabs, et tout en rendant l'étreinte extrêmement cordiale du banquier, il pouvait sentir sous les doigts, sous le pouce de sa main droite, que M. de Krabs portait au deuxième doigt de la main gauche également une bague. M. Thomas prit ensuite le siège que lui désigna M. de Krapps. Le banquier s'assit dans son fauteuil, étendit ses jambes et mit ses mains dans les poches de son pantalon. « Je vous écoute, mon cher Monsieur Thomas, » dit alors le directeur de la banque. « Je suis tout à vous. » Monsieur Thomas s'inclina et dit « Je vous suis très obligé, monsieur le directeur, et vous prie de m'excuser si j'abuse de vos instants pour si peu de choses, mais pas du tout. Je suis venu chez vous pour liquider une obligation et vous m'avez remis obligeamment 500 francs. Je me souviens. Je comptais avoir besoin de cet argent, mais arrivé là-bas, dans ma province, il s'est fait que je n'ai pas utilisé ce numéraire. J'ai donc conservé l'argent liquide. Bien. Vous voulez employer ces fonds? Ah, l'argent ne rapporte rien en tant qu'argent. Or, je suis par moi-même incapable de le faire produire d'une façon raisonnable et sûre. Je dois donc m'en rapporter au moyen le plus normal pour faire fructifier mon petit pécule. Très bien, monsieur Thomas. Que voulez-vous? Voici. J'ai à ma disposition les 500 francs et je viens vous demander de bien vouloir m'acheter au meilleur prix pour 500 francs d'obligation, comme vous l'entendrez, car j'ai en vous la plus entière confiance. Je vous remercie. J'attends tout de votre expérience, de votre loyauté et de votre bienveillance. Voilà, je viens vous confier mes 500 francs pour que vous leur fassiez produire le plus possible. Mon cher monsieur Thomas, le gage de confiance dont vous m'honorez m'est particulièrement sensible. » D'un ton sentencieux, M. de Krapps ajouta « Lorsque les grosses sommes d'argent, les gros capitaux, viennent à moi, je suis certes très heureux, naturellement. Oui, mais j'ai la conviction que ceux qui m'apportent ces capitaux ne s'adressent pas spécialement à moi, M. de Krapps, mais à la banque dont je suis le directeur. Ils ne m'apportent leur argent que pour en tirer les bénéfices aussi considérables que possible. Mon Dieu, c'est tout naturel, » dit M. Thomas. « Sans doute, » répliqua M. de Krapps. « Mais si cet apport de capitaux est un hommage rendu à la banque de Krapps, je suis extrêmement touché, par contre, quand un honnête homme comme vous, monsieur Thomas, quand une petite bourse comme la vôtre, qui ne sait pas spéculer, qui est en dehors de ce mouvement d'affaires, de cette course aux bénéfices, de ce maniement de capitaux, quand, dis-je, un homme loyal et sincère, et permettez-moi de le dire, confiant comme vous, s'adresse à moi, je n'en suis pas seulement heureux et flatté, j'en suis touché au plus profond de mon être. » Je suis heureux pour ma part. C'est ma plus douce satisfaction. C'est la récompense de ma conduite privée, plus que de mes talents. C'est la gloire de mon honneur à moi, plus que de la réputation de ma banque. Et je vous en remercie sincèrement. Je vous en remercie de tout mon cœur. » Tout en parlant ainsi, M. de Krapps avait sorti les mains des poches de son pantalon, et M. Thomas remarqua que M. de Krapps n'avait plus au deuxième doigt de la main gauche la bague en or qu'il portait tout à l'heure. Mais M. Thomas, répétiteur, ne devait pas sembler avoir remarqué ce détail. Les deux hommes se mirent alors à parler de l'opération qu'ils devaient faire valoir les 500 francs. M. de Krapps chercha dans ses journaux financiers le meilleur placement, les actions libres à acheter, ce qui enfin pouvait convenir à M. Thomas et lui donner satisfaction. La discussion sur ce sujet se prolongea assez longtemps. Puis enfin, M. de Krapps appuya sur un bouton électrique et sonna plusieurs coups de façon spéciale. Le caissier parut. Le directeur lui dit « Voici M. Thomas, qui est un de nos clients fidèles et que je tiens particulièrement à favoriser. Voulez-vous prendre note qu'il mette en dépôt à la banque la somme de 500 francs et lui faire avoir au taux le plus bas une obligation de cette valeur sûre et du meilleur rapport ?»« Bien, monsieur le directeur. S'il ne s'en trouve pas sur le marché aujourd'hui, qu'il n'y en ait pas à prévoir pour ces jours-ci, vous donnerez à M. Thomas une des actions de réserve dans la banque. Bien, monsieur le directeur. Demain soir, vous expédierez, à l'adresse que M. Thomas vous donnera, le numéro de l'action que nous avons choisi, afin qu'il puisse suivre les tirages qui vont se faire. » Et en souriant, M. de Krapps ajouta, se tournant vers M. Thomas, « C'est en effet une des joies des propriétaires d'actions que de suivre la liste des tirages complets, de chercher dans cet alignement de chiffres si par hasard la chance les a favorisés et si leur numéro est suivi d'un gros lot, ce que je vous souhaite de tout cœur, mon cher monsieur Thomas. » Le banquier se leva. « Fermez donc la porte, » dit-il à son caissier. « Il y a un courant d'air qui nous vient du dehors et qui pourrait gêner fort, monsieur Thomas. » Pendant que le caissier fermait la porte, monsieur Thomas le suivit des yeux et il vit que le caissier, pour éviter le courant d'air, fermait à clé la porte du bureau et rabattait sur cette porte le ventail capitonné qui empêchait les voix de passer au dehors. De son côté, M. de Krapps fermait rapidement la croisée qui se trouvait non loin de son bureau. Puis il revint à M. Thomas, se tint auprès de lui, fit signe à son caissier d'approcher du bureau en lui disant « Prenez donc, je vous prie, l'adresse de M. Thomas. » Le caissier s'approcha aussi du vénérable répétiteur. Il se pencha, un stylographe à la main, sur une feuille de papier comme pour écrire, et il commença à mettre sur l'affiche « M. Thomas, répétiteur, rue. » Élevant les yeux vers le brave homme, il interrogea « Quelle rue, M. Thomas, je vous prie ?» À ce moment, un rugissement de bête fauve retentit. M. de Krapps bondit en même temps que le caissier sur le paisible répétiteur. On eût dit deux tigres qui, de leur affût, tombent sur une malheureuse proie. « Martin Numa !» s'écria M. de Krapps. « Assez joué la comédie. Tu es entre mes mains, et cette fois plus que dans le souterrain, tu es à ma merci. »« Martin Numa !» répéta le caissier, avec une aussi forte rage. « Tu étais déjà deux fois un double mort. C'est moi-même qui vais t'expédier encore, et aujourd'hui je ne te manquerai pas. » Mais ce que les deux hommes serraient avec une telle énergie, c'était tout bonnement le chapeau de M. Thomas répétiteur et son gros parapluie de coton bleu. Martin Numa, depuis un moment, pressentait l'attaque. Dans les yeux de M. de Krapps, il avait lu la pensée du bandit. Dans l'ordre donné au caissier, il avait compris ce que le courant d'air signifiait. Dans l'argot, courant d'air veut dire « la gorge ». Et Martin Numa s'apprêta aussitôt à protéger la sienne. Il eut l'air de ne se douter de rien, mais se tint sur la défensive. À l'attaque, il se rejeta en arrière, étendant devant lui ses mains et présentant à l'étreinte furieuse des agresseurs à l'un son chapeau, à l'autre son parapluie. Croyant leur attaque sûre, les deux hommes, pensant étrangler le répétiteur surpris, serraient fortement l'un le paraverse, l'autre l'antique haute forme. M. Thomas répétiteur, maintenant débarrassé de sa perruque, de ses lunettes bleues, s'était redressé de toute sa haute taille. Il était redevenu Martin Numa. À son tour, dans ses deux mains puissantes, il tenait M. de Krapps et le caissier. Il les tenait au cou, à bout de bras, et les secouait. « À nous trois, messieurs. À comédien, comédien et demi. Martin Numa n'est pas encore votre homme, puisqu'il vous tient, misérable. Le double mort est bien vivant. » Les deux bandits, surpris d'avoir manqué leur attaque, et se voyant ridicules de serrer l'un le chapeau, l'autre le parapluie bleu, cherchaient maintenant non pas à étrangler M. Thomas, mais à échapper à la poigne terrible de Martin Numa, roi des détectives. Ils se débattirent si bien que Martin Numa, qui en d'autres temps eût été de force cependant à les maintenir, dut les lâcher. Martin Numa n'était pas assez solide encore, n'avait pas recouvré suffisamment ses forces pour se permettre de faire une tentative pareille et d'entamer une lutte comme celle-là. Dans son ardeur à poursuivre sa mission, il venait de commettre une imprudence qui devait sans aucun doute lui être fatale. Martin Numa, qui avait en temps ordinaire la force d'un Hercule et la souplesse d'un jaguar, se trouvait maintenant vraiment en infériorité devant ces deux hommes jeunes, bien portants et forts. Contrariés de voir leur coup de surprise manquer, les bandits se débattirent terriblement. Ils parvinrent à se dégager de l'étreinte puissante de Martin Numa. Mais ils furent quelque peu étonnés d'abord de voir avec quelle facilité, en somme, ils avaient pu se défaire de sa prise, dont ils connaissaient la redoutable puissance. Ils comprirent alors que Martin Numa n'était pas en ce moment le Martin Numa d'autrefois. Ils sentirent qu'ils viendraient facilement à bout à eux deux de cet homme. Ils eurent le pressentiment que vraiment il pouvait se faire qu'ici Martin Numa cessa à jamais d'être le roi des détectives. Mais Martin Numa, de son côté, avait aussitôt compris le danger qu'il courait. Il s'était rendu compte immédiatement de la faute qu'il avait commise, et il cherchait déjà le moyen de réparer sa fatale imprudence. Il ne donna pas le temps à ses hommes de se remettre, de se ressaisir complètement. Il profita de leur surprise, de leur désarroi. Il n'essaya pas de lutter avec les deux adversaires à la fois. La chance de réussite était de les combattre l'un après l'autre. Le plus redoutable lui parut être le directeur. En bonne tactique, il devait se trouver tout de suite en face de lui, étant encore frais et vigoureux. Mais il fallait d'abord qu'il se débarrassât du caissier, qui pouvait le gêner, l'entraver dans ses mouvements, l'arrêter, causer sa défaite. Aussitôt, il donna un violent coup de pied à M. de Krapps dans la poitrine et l'envoya rouler au loin. Il n'eut plus ainsi qu'un adversaire à la fois en face de lui. Alors, il bondit sur le caissier. d'un coup de poing magistral, qui lui asséna comme un coup de foudre sur la mâchoire, un swing admirable, il l'étendit sans connaissance, raide, à ses pieds. En face du directeur, maintenant, n'ayant plus que cet ennemi devant lui, quoique le plus redoutable, Martin Huma pouvait tenter le combat avec quelque espoir. Mais pendant qu'il assommait le caissier, M. de Krabs s'était ramassé, ressaisi. Il revint aussitôt à la charge et s'apprêta à bondir à son tour sur Martin Huma. Celui-ci eut le temps d'envoyer, d'un second coup de pied, dans les jambes du directeur de la banque, la chaise sur laquelle, tout à l'heure, il était assis. M. de Krabs, lancé, ne put réprimer son élan et la chaise, lui arrivant dans les jambes, le fit trébucher, tournoyer, perdre l'équilibre. Martin Huma lui sauta à la gorge et roula avec lui sur le plancher. Ce fut une bataille terrible. Le banquier était d'une force extraordinaire. Martin Huma essaya de lui faire des prises de lutte japonaises, mais M. de Krabs connaissait aussi bien que lui tous les secrets du jiu-jitsu. Silencieusement, tous deux luttèrent pour se donner le coup mortel, car l'un ou l'autre devait rester sur le plancher. Dans la lutte, ils roulaient, enlacés, se tortillant comme des serpents, essayant de se briser un membre, un bras, une jambe, de se crever les yeux, engageant un combat véritablement épouvantable. Or, Martin Huma semblait n'avoir pas cette fois le dessus. M. de Krabs, dont il fut en d'autres temps devenu assez promptement maître, non seulement se défendait admirablement, mais faisait à son tour des prises dont Martin Huma, à grand-peine, parvenait à se dégager. De plus, le roi des détectives sentait ses forces diminuer rapidement. Il allait s'affaiblissant. Ses blessures, mal guéries, le faisaient horriblement souffrir, contribuaient à assurer la victoire de son adversaire. Cependant, Martin Huma parvint à un moment donné, profitant d'une faute commise par M. de Krabs, à se relever à demi. Il put saisir son adversaire de telle façon qu'il lui fut possible de lui passer une jambe dans le dos. Il entoura en même temps le cou du banquier avec son bras droit, à lui, Martin Huma, et il opéra une pression avec sa main gauche sur le crâne de l'adversaire qui devait amener la strangulation dans une seconde ou le bris de la colonne vertébrale comme le fait le garrot au condamné à mort en Espagne. Mais ce coup admirable et terrible, qui ne pardonne pas, demande, pour être exécuté, non seulement l'adresse qu'avait déployée Martin Huma, mais aussi la force qu'en ce moment n'avait plus le roi des détectives. D'un soubresaut désespéré, poussant un rugissement terrible, un cri de victoire, M. de Krabs se dégagea de cette prise. Il laissa aux mains de Martin Huma, qui cherchait à le ressaisir, une partie de ses vêtements. Et il se dressa d'un bond en face du roi des détectives, le gilet ouvert, le col déchiré, les vêtements en lambeaux et la poitrine à nu. Sur cette poitrine, Martin Huma put voir, tracés en bleu, des lignes, des caractères bizarres, des dessins. Alors Martin Huma poussa un cri de triomphe. « Le tatoué, j'en étais sûr !»